Eh bien, mes chers amis, nous nous excusons du retard que nous avons pour commencer notre retraite, mais il faut comprendre que plusieurs venaient de loin. Il y en a qui sont venus de Toronto, même plus loin que Toronto, d'autres de Québec, et d'autres encore qui viennent de Val-David et qui ne sont pas arrivés, mais nous allons quand même faire notre introduction générale. Il y a une chose qui pèse sur nos cœurs, c'est que un des participants a eu un accident aujourd'hui même vers midi. C'est notre cher ami Gaston Forbes, et heureusement sa femme est avec nous et on ne pense pas que cet accident soit trop grave, mais il est à l'hôpital, il n'a pas pu se joindre à nous. Nous voulons tout d'abord le recommander à la grâce du Seigneur. Ô notre Dieu, nous te remercions pour tous ceux qui ont pu arriver sans heurts, sans accidents, jusqu'à nous aujourd'hui. Et quant à notre frère Gaston, nous te l'apportons en te demandant de le bénir et de lui donner là dans sa solitude une grâce toute spéciale, une bénédiction même plus grande encore que s'il avait pu se joindre à cette retraite, car tu es celui qui te penche sur ceux qui sont affligés, et quand tu nous mènes au désert, c'est encore pour mieux parler à notre cœur, que nous puissions tout prendre de ta main, et que notre chère sœur Carole soit aussi dans la paix quant à son mari. Nous nous recommandons maintenant à ta bonté pour que, dans cette soirée déjà, nous puissions éprouver que tu es là, au milieu de nous, que nous ne sommes pas venus pour écouter un homme nous parler, mais pour écouter ensemble ta voix qui nous parle du haut des cieux, en Jésus-Christ. Amen. Il y a de la place devant encore. Eh bien, mes amis, en vous souhaitant à tous la plus cordiale bienvenue, c'est par une parole biblique que nous voudrions introduire cette dernière retraite Mahanaïm de l'année 1989. Et le texte qui exprime ce soir le profond souhait de nos cœurs se trouve donc dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12e, au verset 25e. Est-ce que tous ont reçu le petit programme Jaune Canari? Tous l'ont? Bon. Cela vous donnera déjà une idée de ce que nous allons faire. Il est écrit ce texte derrière mon dos sur le tableau noir: gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux. C'est le verset 25e, le début et la fin, que j'ai rejoint du chapitre 12 de cet épître anonyme qui est peut-être de Paul, d'autres pensent de Barnabas, mais enfin le nom n'est pas donné, peu importe, nous savons que c'est un des écrits inspirés de Dieu. Et quand je me tenais devant le Seigneur pour lui demander, comme chaque fois, quelle est la parole que tu veux donner dès le début à tous ceux qui participeront à cette retraite. C'est cette parole qui s'est imposée. Et je veux croire de tout mon cœur que vous n'êtes pas venu ici pour écouter un homme, mais que nous sommes réunis ensemble par le Saint-Esprit pour écouter une voix plus autorisée que la mienne, celle de notre Seigneur Jésus, qui est glorifié, qui est un homme dans le ciel, qui est le modèle de ce que nous serons un jour, là où il habite, car il nous l'a promis. Il veut, et c'est sa volonté, que là où il est, un jour, nous soyons aussi avec lui. Et c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux de penser que la volonté du Seigneur, c'est de nous avoir avec lui. Et où est-il? Eh bien, nous le savons, il est remonté au ciel auprès de son Père, et il se trouve dans une gloire aussi élevée que son abaissement a été grand et profond lorsqu'il était sur la terre. Et pour nous, le ciel, eh bien, c'est là où est le Seigneur. Et si Jésus était en enfer, eh bien, l'enfer serait pour nous le ciel. Ça, c'est pas un lieu géographique, c'est le lieu où le Seigneur se trouve. On n'a pas besoin de faire de la poésie sur le ciel. Le ciel, c'est le lieu où le Christ se trouve. Et il est là devant son Père. Il nous représente. Et son Père ne nous voit qu'au travers des perfections de son Fils. Et si vous voulez savoir ce que vous êtes aux yeux de Dieu, apprenez à contempler Jésus plutôt que de vous regarder dans un miroir. Tant que vous contemplez le Seigneur Jésus, eh bien, vous pouvez être encouragé, car en le contemplant, nous sommes transformés à son image et à sa ressemblance. Et le Père ne nous voit plus que dans les perfections de son Fils. Il nous a vus un jour, en tant que pécheurs, cloués avec Jésus, avec son Fils, et il a détourné la tête. Il a détourné la tête de son Fils, pour quelle raison? Parce que son Fils s'était fait notre représentant. Il était fait sur la croix, péché pour nous, en réalité. Et Dieu a détourné la tête de son propre Fils, qui était pourtant sans péché, mais qui nous a aimés de cet amour, qu'il a tout pris à son compte pour payer et expier nos fautes. De sorte que Dieu ne peut plus se détourner de vous. S'il se détournait de vous, ça voudrait dire qu'il se détourne de qui? De son Fils. Alors, si vous savez cela, et ça c'est un fait, et un fait divin, eh bien, vous êtes réconforté, et vous ne vous abandonnez plus à vos sentiments qui vous coulent. Ces sentiments où vous sentez, où vous éprouvez toute votre médiocrité, vous êtes découragé. Eh bien, au début de cette retraite, je voudrais que vous soyez convaincus que ce ne sont pas mes paroles qui comptent, mais qu'ensemble nous irons écouter celui qui nous parle des cieux et qui a autorité pour nous parler, parce qu'il a triomphé de toutes les circonstances que nous pouvons nous connaître sur la terre. Et tout de suite, pour bien laisser ce texte dans ce conte, dans son contexte, nous allons lire ces quelques versets qui entourent le verset 25e du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Et vous comprendrez
que si vous êtes ici, ce n'est pas pour être culpabilisé. Et vous n'êtes pas en danger. Et je veux croire que, à la fin de cette retraite, vous pourrez quitter ce lieu en disant, bien maintenant, plus que jamais, je sais ce que c'est que la grâce. Car, durant ces journées, je veux le croire éperdument, nous nous serons approchés, non pas du Sinaï, de la montagne pleine de feu, où il était dit que celui qui allait la toucher serait lapidé, même si une bête touchait la montagne. Mais nous nous serons approchés d'une autre montagne, la montagne de la grâce, la montagne de Sion, dont nous allons lire quelque chose comme introduction générale, parce que vous voyez, on ne va commencer notre vrai sujet que demain matin, parce que plusieurs ne sont pas encore arrivés. Alors, je ne vais pas faire du remplissage en attendant, mais nous allons écouter celui qui nous parle des cieux dès ce soir. Alors, verset 25e. Et vous recevez cela dans vos cœurs. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Et vous l'avez bien compris, celui qui parle, c'est pas moi. Et je suis le premier à être interpellé par cette parole. Et j'ai à me garder, n'est-ce pas, de refuser d'entendre ce que, en ce 24 novembre, celui qui parle des cieux a à me dire à moi. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, s'ils n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Car comme vous le savez, vous êtes certainement quand même des lecteurs de la Bible, Dieu a parlé. Il a parlé sur une montagne qui est le Sinaï, à une foule qui était rassemblée autour de cette montagne, le peuple d'Israël, qui venait d'être délivré d'une façon miraculeuse du pays d'Égypte où ils avaient été en exil pendant 400 ans, et où ils avaient connu le plus dur esclavage au temps d'un pharaon qui n'était pas celui qu'avait connu Joseph. Mais Dieu avait suscité Moïse, et sous la conduite de Moïse, le peuple, après tous les miracles que le Seigneur avait fait en Égypte, le peuple a pu être libéré, a traversé la mer Rouge, mais ils se sont trouvés de l'autre côté de la mer, dans le désert. Et là, ils ont demandé à ce que Dieu leur dise ce qu'ils devaient faire. Ils ont eu la prétention de pouvoir accomplir les pensées de Dieu. Et ils ont dit que Dieu nous parle et nous ferons ce qu'il nous dira. Alors Dieu a consenti à leur parler. Et il est descendu sur cette montagne. Mais quand Dieu descend au milieu des hommes, il y est descendu dans toute sa gloire, une gloire que l'on ne peut pas contempler, puisque nul ne peut voir Dieu et vivre. Alors il s'est enveloppé d'une nuée obscure, alors qu'en même temps la montagne était complètement embrasée. Et Dieu avait dit à Moïse d'avertir les Israélites que personne ne devait s'approcher de cette montagne, il devait écouter de loin, parce que toute personne, ou même si un animal touchait la montagne, eh bien, il serait lapidé. Alors vous lisez ces versets. « Si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, ces 10 commandements que vous connaissez, ils ont été prononcés par Dieu lui-même. On les a entendus, ces 10 paroles, sur la terre, dans un lieu géographique que plusieurs connaissent. J'ai eu le privilège d'aller au Sinaï et de me rendre compte de ce lieu où la montagne était embrasée et où on a entendu la voix de Dieu. Lui dont la voix ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Nous allons au-devant d'un fait extraordinaire qui bientôt sera accompli. Nous allons au-devant d'un fait extraordinaire. Ce n'est pas seulement la terre qui va être ébranlée, mais aussi le ciel. Un véritable ébranlement cosmique. Il y a eu l'ébranlement du Sinaï autrefois, au temps de Moïse. Et ceux qui ont entendu cette voix et qui ne l'ont pas écoutée, hein, cette voix qui parlait sur la terre, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils n'ont pas échappé. Alors, figurez-vous, qu'est-ce qui va arriver bientôt? Un ébranlement du ciel et de la terre. Et si ceux qui ont connu l'ébranlement de la terre n'ont pas échappé parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, combien plus ceux qui auront entendu la voix qui vient du ciel. Voyez le verset 27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Nous sommes, nous, dans les choses qui sont ébranlées. Hein. On est sur la terre, les choses sont ébranlées. Mais c'est rien encore, comparé à ce qui va venir. Et qu'est-ce qui va subsister? Pourquoi est-ce que les choses ébranlées vont disparaître? Parce que Dieu veut faire des choses nouvelles. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors je crois que il est pour nous urgent de penser non plus seulement aux choses de la terre, mais aux choses inébranlables qui vont subsister. Verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est un feu consumant. Bien, nous espérons que dimanche après-midi, après cette retraite, eh bien, nous pourrons vivre vraiment un culte d'adoration, un culte de louange qui soit agréable à notre Dieu, un culte que nous rendrons avec piété mais aussi avec crainte, avec ses peurs de lui déplaire, car nous sommes en présence du Seigneur Jésus. Mais je voudrais, pour que vous puissiez encore mieux éprouver la grâce qui nous est donnée, vous lire maintenant depuis le verset 18e. On revient un peu en arrière et vous allez être tout de suite encouragés. Quand vous êtes venu à cette retraite, je voudrais que vous soyez convaincus que vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, comme c'était le cas du Sinaï, et qui était embrasée par le feu. Vous n'avez pas vu ça, hein, jusqu'à maintenant. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Si vous lisez dans l'Exode, hein, c'est ce que ont vécu les Israélites quand ils sont approchés du Sinaï. Ni du retentissement de la trompette. Ils entendaient une trompette dans la montagne, un corps. Ni du bruit des paroles. Tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit plus adressé une, pas une de plus. Ils avaient demandé à Moïse que Dieu nous parle. Puis quand Dieu s'est mis à parler, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne voulons plus entendre cette fois. Ils étaient terrorisés quand Dieu leur parlait sur la montagne du Sinaï. Et que ce peuple se rendait compte de ce que Dieu est. On a besoin de retrouver vraiment ce sentiment de ce que Dieu est. Dieu n'est pas notre chum, comme on l'entend si souvent. Notre grand copain, ce n'est pas vrai. Dieu est un feu consumant. Il est le Dieu de la grâce, comme nous allons le voir. Mais faisons attention. Et n'élevez pas vos enfants dans cette idée que Jésus c'est le bon chum, ou que c'est le meilleur chum, parce qu'on parle dans nos familles comme on parle dans le monde. Et on ne connaît plus la sainteté de Dieu. Et il faut que nos enfants soient élevés dans la crainte de Dieu. Vos pères peut-être, qui n'avaient pas vos connaissances évangéliques, avait peut-être encore la crainte de Dieu qui disparaît dans nos jeunes générations. Et pourtant, nous pensons les élever plus dans la vérité que nos pères ont pu le faire. Mais ne faites pas une croix sur la vie de vos pères. Nous n'avons pas à les juger. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'ils ont pu vous donner. Et même s'ils ne sont plus honorés, la mémoire de votre père et de votre mère. Et souvenez-vous que Dieu les aimait. Il les a toujours aimés. Il a tant aimé le monde. Et ce n'est pas à vous qui êtes le juge de vos parents, de vos ancêtres. Et chacun sera jugé d'après les lumières qu'il possédait. Et je suis absolument convaincu qu'il y a parmi les ancêtres de ce Canada français des hommes et des femmes qui ont plu à Dieu malgré l'ignorance dans laquelle ils étaient, de son infinie miséricorde et de sa grâce. Ils ont peut-être tremblé devant lui. Ils n'ont peut-être pas eu l'assurance de leur salut au moment de partir, mais ils n'avaient pas renié Jésus. Ils n'avaient pas dit non à ce grand sauveur. Mais on ne leur avait pas donné les certitudes
qui aurait pu les aider à passer par la sombre vallée. Mais ce que je crois, c'est que le bon berger était quand même avec eux. Le bon berger était quand même avec eux. Nous continuons au verset 20, le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Donc, Israël, ayant entendu la voix de Dieu, ne supportait pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible. Vous voyez, quelquefois, on voudrait avoir une vision de Dieu. Mais quand Dieu s'est manifesté au Sinaï, qui est un lieu que l'on peut visiter sur la terre, quand Dieu s'est manifesté au Sinaï, ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis tout épouvanté et tout tremblant ». Vous rendez-vous compte? Moïse, qui avait eu la vision du buisson ardent, Moïse dit qu'il était épouvanté et tout tremblant. Mais quand vous lisez le livre de l'Exode, hein, il n'est pas raconté cela. On voit Moïse qui monte vers Dieu, mais il n'est pas dit quels étaient ses sentiments. C'est ici, il faut arriver dans l'Épître aux Hébreux pour apprendre ce qui se passait dans le cœur de Moïse. Il se tenait debout devant le peuple et devant Dieu, mais dans son cœur, qu'est-ce qui se passait? Il y avait la crainte. Il était tout tremblant. Il ne se sentait pas en forme. Je l'ai dit avec le sourire quand on me demande « Est-ce que vous êtes en forme ce soir ?» Eh bien, ça me déplaît plus ou moins. Je comprends très bien les bonnes intentions. On désire que je sois en forme. Mais comme je l'ai dit souvent, c'est quand mon Seigneur était sans forme ni éclat sur la croix, qu'il m'a sauvé. Et ce n'est pas le jour où je me crois en forme que le Seigneur peut m'employer. Il ne peut m'employer que si je sens ma misère, ma faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que je ne compte pas sur mes ressources, je ne compte pas sur mon intelligence, je ne compte pas sur mes moyens, je compte éperdument sur le Seigneur et je lui dis, Seigneur, vas-y, glorifie-toi. Il n'est pas question de moi, il est question de toi. Alors c'est le Seigneur qui doit compter pour nous. Mais vous voyez, Moïse lui-même, bon, il accomplissait sa tâche, mais dans son cœur, il a été tout épouvanté et tout tremblé. Alors, vous n'êtes pas venu ce soir dans un lieu comme le Sinaï, un lieu qui vous démolit plutôt. Vous êtes venu avec le désir d'être construit, d'être bâti, d'être fortifié, d'être encouragé, de laisser derrière vous vos dépressions pour recevoir une grâce. Eh bien voilà, verset 22. Mais vous êtes venus, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. La montagne de Sion, il en est souvent parlé dans l'Écriture, c'était la ville de David, c'était Jérusalem, la montagne où le Seigneur s'est donné dans cette ville de Jérusalem. Il n'est pas descendu dans une flamme, il s'était incarné et il a donné sa vie. Après 33 ans de manifestation de ce qu'était la vie que Dieu désirait d'un homme, eh bien, Jésus a donné sa vie. Et la montagne de Sion, c'est la montagne de la grâce, en contraste avec le Sinaï.
Nous n'allons pas vous mettre sous la loi, car nous aurons l'occasion encore de parler de tous ceux qui se trouvent sous la loi, ils sont malheureux. Et s'il y a tant de chrétiens qui sont malheureux, c'est qu'ils sont encore sous la loi. Et la loi, tant que vous êtes sous la loi, vous ne pouvez pas être heureux. Est-ce que vous êtes heureux si vous êtes sous la loi? Vous voulez être heureux en étant sous la loi? Mais qu'est-ce que la loi vous demande? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Vous l'avez fait aujourd'hui? Vous êtes au clair là-dessus? Est-ce que vous avez vraiment aimé Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée? Toutes vos pensées ont été contrôlées par le Seigneur? Est-ce que c'est lui qui était devant vos yeux? C'est facile de se faire des illusions. C'est facile de dire qu'on aime Dieu de tout son cœur. Mais alors, je vous demande, est-ce que vous avez aimé votre prochain comme vous-même, aujourd'hui? C'est ça que demande la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors vous dites, oui, mais qui est mon prochain? Elle a déjà été posée, cette question. Qui est mon prochain? Disait le docteur de la loi, pour se justifier. Qui est mon prochain? Ben c'est celui qu'on méprise, c'est le samaritain, c'est celui qu'on juge païen. Vous vous êtes approché non pas de la montagne du Sinaï qui nous met sous la loi, mais de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. On pourrait méditer sur chacune de ces paroles. La cité du Dieu vivant. Au temps de David, Dieu avait consenti d'habiter dans la ville de Jérusalem où il avait son temple, où il allait bâtir le temple de l'Éternel que Salomon a érigé. Dieu a été dans une ville, comme il a été autrefois dans le désert, mais il a été aussi dans une ville, et cette ville, et c'était Jérusalem. Mais mieux que cela, vous vous êtes approché de la Jérusalem céleste. Pas simplement vous êtes allé en pèlerinage à Jérusalem, mais la Jérusalem terrestre, elle ne nous apporte pas la paix. C'est la Jérusalem céleste qui nous apporte la paix. Vous vous êtes approché des myriades que forment le cœur des anges. Oh, comme nous voudrions que, dans ces journées, vous puissiez goûter quelque chose de la Jérusalem céleste. Vous venez d'églises peut-être diverses, mais que, ici, on puisse éprouver que nous faisons partie de la même grande communauté, la Jérusalem céleste. Vous vous rattachez à des groupes sur la terre, c'est bien. Mais, avant toute chose, soyez des bourgeois des cieux, des gens de la maison de Dieu. Alors au lieu de vous questionner de quelle église es-tu parti, et puis qu'on sente tout de suite un froid parce qu'on n'est pas du même groupe, tout cela sera mis de côté parce que vous sentirez que vous avez une attache supérieure. Vous faites partie de la Jérusalem céleste. Alors, nous nous sentons déjà ensemble. Nous nous sentons déjà unis. Nous sommes bourgeois des cieux, gens de la maison de Dieu. Notre bourgeoisie, elle est en nous. Notre vrai chez nous est dans le ciel. Parce que il n'y a pas d'espérance pour nous demeurer toujours ici-bas. C'est vrai ou c'est faux? Vous êtes en bonne santé, peut-être. Vous pensez que vous en avez encore pour plusieurs années, mais que savons-nous de notre vie? Quelle est la durée de nos jours? Elle est bien fragile. J'étais avec Josaphat l'autre jour pour une fin de semaine biblique dans un autre lieu,
Et au culte dimanche matin, nous avons été frappés par un frère qui louait le Seigneur parce qu'il s'était réveillé le matin avec l'emploi de tous ses membres, n'est-ce pas? Il voyait encore, il entendait encore, il pouvait encore remuer ses mains, travailler donc, il pouvait encore se déplacer, il était jeune encore cet homme. Est-ce que ça nous vient à l'idée que peut-être qu'on pourrait se réveiller en ayant perdu la vue, ou l'ouïe, ou bien la possibilité de nous mouvoir avec tous nos membres? C'est tellement naturel, on se lève, voilà, ça marche. Mais il y en a qui se réveillent à côté de leur époux ou de leur épouse avec une paralysie, puis ils ne sont pas vieux. Puis sont chaises roulantes pour la fin de leur jour. Vous voyez comment on devrait être reconnaissant pour toute chose. Comment on devrait pouvoir bénir Dieu, n'oublier aucun de ses bienfaits. Je dis souvent, si chaque jour on essayait de faire la liste de nos bienfaits, on verrait qu'elle est beaucoup plus longue que celle de nos épreuves. Mais nous comptons toujours nos épreuves, nous parlons toujours de nos épreuves. Est-ce que nous parlons de nos bienfaits? Est-ce que nous rendons grâce au Seigneur? Est-ce que nous sommes heureux d'avoir encore la vue, d'avoir encore l'ouïe, d'avoir encore la possibilité de nous exprimer, de travailler, de nous déplacer? Et alors, nous sommes venus donc à cette montagne de la grâce. Et vous ne les avez pas vus, ces myriades d'anges, mais ils sont là. Si tout d'un coup le Seigneur nous donnait cette vue de l'invisible, nous sommes venus là où se trouvent des myriades d'anges, des myriades qui forment le cœur des anges. Les anges sont des esprits administrateurs employés envers ceux qui doivent hériter du salut. Vous avez su que le président du Liban a été assassiné? Et ses gardes de corps? Il en avait, hein? Je crois qu'on m'a dit une dizaine. Ils ont été assassinés avec lui. Tout a sauté. Mais vous, mes bien-aimés, prenez conscience qu'il y a des myriades d'anges qui vous protègent. Comme nous devrions être en paix. Vous avez besoin de garde de corps? Ils te sautent. Ce sont des hommes. Mais les anges, on ne peut pas les toucher. Alors prenez conscience que les anges vous protègent. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrit dans les cieux. Ça, c'est déjà une vision prophétique, mais nous pouvons déjà savoir où nous allons. Par la foi, nous savons que nous faisons partie, si nous avons cru au Seigneur Jésus, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Où votre nom est-il inscrit? Où voulez-vous que votre nom soit inscrit? Dans le livre de vie, bien, il est écrit. Hein? Bienheureux ceux dont les noms sont écrits dans les cieux. Ce qui compte, c'est de savoir que nos noms sont écrits dans les cieux. L'assemblée des premiers-nés. Qui est le premier-né? Jésus. Et nous, nous sommes en Jésus les premiers-nés. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Nous sommes mis sur le même pied que Jésus. Dans le ciel où vous avez votre place, Dieu vous considère comme ses premiers-nés. Vous trouvez pas que c'est merveilleux? Mais prenez conscience de toutes ces grâces dont nous allons parler dans les rencontres qui vont suivre. Vous vous êtes approchés dans la foi, dans l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Alors quand vous regardez votre frère, au lieu que
Vous pensez, lui, il est écrit dans les registres de l'Église, je ne sais comment, quel nom. Hein. Je suis à côté d'une sœur dont le nom est écrit dans le ciel. Ça change toutes nos relations. Hein? Puis on peut se parler avec amour, parce que c'est là qu'on va. Et alors là, il n'y aura plus qu'un grand groupe. Hein? Alors, faisons déjà partie de ce grand groupe. Les premiers-nés inscrits dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous. De Dieu, on s'approche de Dieu. Alors, c'est le sommet de la montagne. Hein? On peut s'approcher de Dieu. Juge de tous, mais qui est pour nous non plus un juge, mais un père. Il nous a jugés, mais quand ? À la croix. Il nous a jugés dans son Fils. De sorte que nous ne viendrons plus en jugement. Alors, si nous avons été jugés dans son Fils, si nous avons accepté d'être dans son Fils, nous ne serons plus jugés. C'est la parole qui nous le dit. Alors, nous n'avons plus peur de Dieu. Cette crainte de Dieu dont j'ai parlé, c'est la peur de lui déplaire. Mais ce n'est pas la peur de lui, c'est peur de lui déplaire, de faire quelque chose qui ne corresponde pas à ses désirs. Parce qu'il nous a tellement aimés que maintenant nous voudrions en retour l'aimer de tout notre cœur. Puis, nous nous sommes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous voyez que ces esprits des justes, ce sont ceux qui ont achevé leur course. Vous avez des membres de vos familles qui ont cru au Seigneur et puis qui ont achevé leur course. Puis qu'est-ce qu'ils attendent ? La résurrection. Ils attendent maintenant la résurrection. Mais leur esprit, eh bien, est déjà dans la perfection. Mais pour qu'ils aient la perfection totale, il faudra qu'ils aient revêtu leur corps qui leur sera donné à la résurrection. Puis finalement, nous nous sommes approchés de Jésus. Vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. Puis en finale, vous vous êtes approché du sang d'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Si vous êtes venu avec le sentiment de votre misère et de vos péchés, qu'est-ce qui vous purifie de tout péché ? Le sang de Jésus-Christ. Alors que la loi demande votre condamnation, le sang du Christ, qu'est-ce qu'il crie ? Grâce. C'est pour ça qu'il parle mieux que le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel, versé par Caïn, il criait vengeance. Le sang d'Abel, versé par son propre frère Caïn, c'était du sang qui criait vengeance. Tandis que le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il crie ? Grâce. Père, a dit Jésus, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand vous avez péché dans cette semaine, quand vous avez eu des manquements, vous n'étiez pas vous-même, vous ne saviez pas ce que vous dites. Mais maintenant que l'Esprit de Dieu vous saisit, bien vous comprenez, non. C'est pas comme ça que je vais vivre la semaine prochaine. Je me juge des manquements de cette semaine. Je me juge de ce qui n'a pas été à ta gloire. Et je te bénis parce que je viens à ton sang qui crie grâce et non pas vengeance. Alors gardez-vous de refuser celui qui vous parle des cieux.
dès demain, nous allons poursuivre et donc nos retraites de cette année et qui sont intitulées le sujet général les faits divins et nos sentiments. Ceux qui étaient là en février se souviennent que nous avons essayé de définir ce qu'était un fait et ce qu'était un sentiment. Et un fait, je le dis simplement pour ceux qui n'étaient pas là, pas parce que je pense qu'ils sont ignorants, mais simplement pour rafraîchir notre mémoire, un fait c'est un événement, c'est une chose qui est reconnue comme une réalité. Un fait ça s'oppose au rêve. Un fait c'est quelque chose qui s'est passé en dehors de nous, dont nous sommes absolument sûrs. Et si nous disons fait divin, en l'appelant divin, nous soulignons simplement que ce fait, qui est un fait tout à fait historique, eh bien, il est confirmé par la parole de Dieu. Car nous croyons que la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu, et que les faits que nous trouvons dans la Bible sont des faits vraiment divins. Jésus a toujours, quand il était sur la terre, répondu à Satan qui essayait de le faire douter. Par quoi est-ce qu'il a répondu? Par la parole. Il est écrit. Pour Jésus, l'écriture, c'était un fait divin. Il est écrit. Et pour nous aussi, nous sommes de ceux qui croyons que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alors nous ne nous laissons pas guider par nos sentiments, parce que qu'est-ce que c'est qu'un sentiment? Ben c'est un mot, le sentiment, c'est le mot sentiment vient du mot sentir. C'est une manière de penser, c'est une manière d'apprécier quelque chose. C'est une impression qui a à faire à notre sensibilité. Alors, si vous vous laissez conduire par vos sentiments, un jour vous êtes au sommet, et le jour après, vous êtes au fond du gouffre. Tandis que si vous croyez les faits, vous pouvez vous y accrocher, vous êtes sûr. Indépendamment de ce que vous expérimentez. Or, il y a beaucoup trop de croyants qui sont toujours à scruter leurs sentiments et leurs expériences. Si vous regardez à vos expériences, vous êtes découragé. Mais si vous regardez aux faits qui sont confirmés dans la parole de Dieu, eh bien, vous vous oubliez vous-même, et puis vous donnez gloire au Seigneur, qui vous dit, je ne suis pas mort pour rien. Et alors, dans notre première rencontre, nous avons traité le sujet mort et ressuscité avec Christ. Alors, pour vous, est-ce que c'est un fait ou bien est-ce que c'est un sentiment? C'est un fait. Et vous le croyez? Puis, dans la deuxième rencontre, nous sommes allés plus loin. Caché avec le Christ en Dieu. où se passe vraiment notre vie. Est-ce que c'est en Jésus, caché en Jésus, ou bien dans ce monde? Si vous regardez à vos sentiments, votre vie, elle se passe où? Dans ce monde. Mais si vous regardez à ce que Dieu dit, où est votre vraie vie? Là où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Voilà ce qui doit compter pour nous. Mais alors, il faut que le Seigneur soit notre trésor. Je vous ai dit dans la première rencontre une pensée que l'on trouve dans un des livres de John Bunyan. Il parle du pèlerin et qui, lorsque sa foi il regarde au fait, il avance. Mais quand il se retourne pour voir ce qu'est son expérience, qu'est-ce qui lui arrive, il tombe. N'est-ce pas? Le fait, il est devant vous. Ne vous occupez pas de vos expériences. Regardez toujours au fait. Tant que votre foi se cramponne au fait, crois le fait, tu marches droit. Mais le jour où tu veux voir comment tu as marché, tu ne vois plus le but, tu te décourages et tu tombes. N'est-ce pas? J'aime beaucoup cette pensée. Regarde au fait, et Dieu ne te trompe pas. Crois ce que Dieu te dit. C'est pourquoi il a dit, fixant les yeux sur Jésus. Non pas sur ce que tu éprouves, sur ce que tu ressens. Finissez-en avec vous-même. Car ce que nous avons considéré dans nos précédents volets, nous avons considéré la question du péché. Est-ce que le péché, c'est un fait, ou bien est-ce que c'est simplement un sentiment? C'est un fait, vous êtes d'accord? Bon. Mais, une fois qu'on a admis que le péché est un fait, on accepte le remède. Tandis que si c'est simplement un sentiment... Comment? Oui. Et alors, la chair, on a étudié aussi la question de la chair. La chair, vous la connaissez? Vous en êtes satisfait? Elle est très forte, votre chair, elle est toujours en forme? Votre chair est en forme? Quelle est l'expérience qu'on doit faire au sujet de notre chair? Qu'on peut se confier dans la chair? Nous avons vu des exemples, hein? Pierre, il se confiait dans la chair. Quand même tout t'abandonnerait, moi, je ne t'abandonnerai pas. Puis qu'est-ce qu'il a fait? C'est la chute, hein? Il a renié. Donc, nous portons le jugement de Dieu sur la chair, c'est un fait. La chair, elle est faible. Qu'est-ce qui a dit cela? C'est le Seigneur Jésus. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Alors, qu'est-ce qu'on va me croire? Moi, je m'en vais me croire fort? Non, la chair est faible. Vous voyez, le psalmiste d'Israël, David, il a écrit les plus beaux cantiques, les plus beaux psaumes, mais pour un instant où il n'est pas à sa place, il tombe. Maintenant, la loi qui a été donnée par Moïse, dont nous avons lu quelque chose ici, vous avez vu comment elle a été donnée dans cet appareil extraordinaire qui faisait trembler Moïse. La loi. Est-ce qu'elle était donnée à l'homme pour pouvoir le sauver, pour qu'il puisse être sauvé par la loi? Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi? Pour amener l'homme à reconnaître qu'il était incapable de faire
le bien, pour lui enlever ses dernières illusions. Mais vous voyez, il y a des gens qui ont le sentiment qui peuvent accomplir la loi. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis adultère, etc. Alors, voilà, ils se basent sur leurs sentiments. Mais si vous allez au fond des choses, est-ce que la loi vous sauve? La loi, elle vous condamne. La loi, elle vous condamne. Alors, chaque fois que vous vous remettez sous la loi, vous vous replacez sous la condamnation et vous vous sentez culpabilisé. Hein? Et on ne se sort pas de cette culpabilisation et alors on est toujours malheureux. Et s'il y a tant de chrétiens malheureux, c'est parce que justement, ils n'ont pas compris que c'est pas en voulant essayer de vivre la loi qu'ils seront sauvés, qu'ils progresseront. C'est en acceptant ce que Dieu nous dit. La loi m'amène à dire qui me délivrera. La loi est un conducteur pour m'amener à qui? À Christ. Alors, je peux peut-être employer la loi dans une prédication pour amener les âmes à cette certitude qu'ils ne peuvent être sauvés que par le Christ. Puis maintenant, le monde dans lequel nous vivons, qu'est-ce qu'il est? Selon l'Écriture, qu'est-ce que Dieu nous dit de ce monde? Le monde, il est inimitié contre Dieu, mais qu'est-ce qu'il offre à l'homme? Qu'est-ce qu'il peut vous donner, le monde? Quand il lui dit, n'aimez pas le monde, qu'est-ce que le monde peut vous donner? Et qu'est-ce que le monde donne? La convoitise, la chair. La convoitise, des yeux, et puis l'orgueil de la vie. Voilà ce que le monde donne. Et ça, c'est un fait. Alors, comment est-ce qu'on peut être délivré de tout cela? Qu'est-ce que Paul nous dit? J'ai été crucifié avec Christ. Le monde, pour lui, était crucifié. Et lui, il l'était aussi pour le monde. On a vu ces faits-là. Puis maintenant, la mort, est-ce que c'est un fait ou bien est-ce que c'est un sentiment? C'est un fait, hein. Tout le monde est d'accord, un jour il faut mourir. Puis on n'a pas de pouvoir sur le jour de la mort. Puis enfin, on a vu aussi un autre ennemi, Satan lui-même. Est-ce que c'est un fait, Satan? Vous voyez que c'est une réalité, Satan? Ou bien que c'est une image, c'est une idée? C'est une réalité. Hein. C'est une personne, c'est l'ange déchu. Mais voilà, le Seigneur est venu et il nous a délivrés du péché, délivrés de la domination de la chair, il nous a libérés du joug de la loi, il nous donne une vie dans l'esprit, une nouvelle appréciation de ce qu'est le monde, au lieu de chercher dans le monde nos satisfactions, on cherche à apporter au monde ce qu'on trouve dans le ciel. Nous sommes délivrés de la crainte de la mort, puis nous avons la victoire sur Satan. Eh bien, voilà ce que j'avais à cœur de vous dire comme introduction. Maintenant, nous arrivons alors à ce programme de ce que seront nos journées. Vous avez tous le petit papier canari, là.
Eh bien, chers amis, je vais me saluer ce matin dans le nom du Seigneur en espérant que votre nuit a été bonne et que nous pouvons commencer cette journée dans l'assurance de la bénédiction de Dieu qui aime à nous donner plus et mieux encore. que tout ce que nous pouvons désirer est bonté. Je ne connais pas quels sont les besoins de mon cœur, mais je sais que notre Père des cieux sait tout de vous, de vos désirs, de vos aspirations, de vos luttes, de vos peines, et que dans cette retraite, il sera vous donné une parole qui vous bâtit, vous conduit, vous fortifie, une parole aussi qui vous exhorte, qui vous stimule, qui vous réveille sur un point ou sur un autre, et puis une parole aussi qui vous console, cette consolation du cœur du Dieu qui sonne. Je le répète souvent en m'inspirant chaque fois comme si Esaïe est un père, un cœur tout à fait maternel. Alors hier soir, dans notre ouverture, dans notre introduction, nous avons été appelés à nous garder durant cette retraite de refuser d'entendre celui qui nous parle des dieux. Et je pense que cette parole est restée dans vos cœurs. Vous n'êtes pas venu écouter un homme qui parle, mais ensemble, nous nous trouvons devant Dieu pour écouter celui qui nous parle du haut des cieux. C'était donc le verset 25 du chapitre 12 des Hébreux. Et je vais demander hier soir au sein d'une certaine fatigue, parce qu'on a eu bien des préparations à faire. Vous n'ignorez pas que pour faire une retraite comme celle-ci, eh bien, ça ne se fait pas sans travail. Et le travail était aussi un peu multiplié, surtout pour notre sœur Madame Badet, à laquelle je m'en rends témoignage. On avait, je crois, 110 inscriptions, et puis nous n'avions que 100 chambres, et en finale, nous trouvons que 93. Hein. Alors, comme nous devons louer aussi cette maison à l'avance, pour cette année qui vient, nous devons louer à l'avance, pour une certaine somme, évidemment, les trois retraites qui viennent jusqu'en novembre. Alors, cela occasionne évidemment certains troubles. Et puis, nous étions venus aussi jeudi matin pour faire une préparation avec les sœurs, avec la liste. Et puis, tout à coup, alors, il y a des gens, évidemment, c'est inévitable. C'est inévitable que quand on ne sait pas ni qui vit ni qui meurt, comme dit un dicton, n'est-ce pas? Mais enfin, quand on compte plus ou moins sur un certain nombre de personnes, qui après pour changer tous les noms, ça crée certains problèmes, et surtout aussi des téléphones de dernière minute. Bien sûr, il peut y avoir des deuils, il peut y avoir la maladie, la vraie maladie. Alors, on comprend ça très bien. C'est dans le programme, tout ça. Mais si nous avons dû demander $10 d'inscription, c'est pour que les gens sentent quand même une responsabilité. On se propose toute chose devant le Seigneur, il est possible qu'il y ait une impossibilité, mais quand on la voit, eh bien, on tâche d'avertir à l'avance. Il y en a même qui n'ont pas du tout averti et qui ne viennent pas. Alors, ça empêche. Là, j'ai un témoignage avant vis-à-vis des sœurs, parce qu'elles m'avaient donné 90 chambres, je vous le dis maintenant. Elles m'avaient donné 90 chambres pour cette retraite. Quand on a vu tout le monde qui s'inscrivait, j'ai pu en obtenir encore 10. Donc, on en avait 100. Mais pour cela, elles doivent refuser à leurs propres sœurs de pouvoir venir. Si elles nous donnent 90 chambres, c'est parce qu'elles se réservent quelques chambres pour leurs sœurs âgées, fatiguées, qui veulent venir passer le week-end. Alors, si je prends les 100 chambres, et puis après, il y en ait moins. Vous comprenez, je suis un peu malheureux vis-à-vis de nos sœurs, parce que c'est aussi un témoignage. Alors il faut pouvoir les avertir assez tôt pour qu'elles puissent encore faire les changements. Je vous dis simplement ça, non pas pour laver la tête à personne, mais au contraire pour qu'on essaye de se comprendre et de nous aider les uns les autres. Alors, nous voulons entendre celui qui parle des cieux. Nous voulons vraiment le prendre au sérieux. Et hier soir, donc, j'ai demandé au Seigneur, enfin, donne-moi une parole pour demain matin. Et avant de m'endormir, j'ai reçu cette parole. Celui qui vaincra héritera de ces choses et je serai son à mon fils. Voilà la parole qui ouvre cette matinée et elle vient toujours de celui qui nous parle des cieux. Parce que c'est des cieux que ressentit cette parole. Alors, je vous lis le bon texte. Pour que vous en soyez bien sûr. C'est dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. C'était le verset 7. J'avais mis 17 ce matin très tôt, mais je ne sais pas pourquoi. On fait des erreurs. Hein. Alors, on me l'a signalé et tant mieux. Je lis depuis le verset 3. Et j'entendis du trône, donc vous voyez, j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici l'éternel de Dieu, l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ces choses que vous voyez tous les jours, dans les journaux, à la télévision, à la radio, toutes ces choses-là, cet environnement, ce sera terminé. Pourquoi ? Parce que Dieu va ébranler les cieux de la terre. Et c'est le fait qui vient, ce fait qui est là et qui est certain, il va le faire, même si vous n'en avez pas le sentiment. On n'avait pas le sentiment qu'il y aurait un déluge hein, quand Noé construisait l'arche. Ce n'est pas une question de sentiment, mais Dieu avait parlé à Noé que la terre serait couverte par les eaux et il bâtissait son arche. Même si l'on se moquait de lui, et ce fait est arrivé. Eh bien, il y a des faits à venir, des faits qui sont annoncés. Nous avons vu dans nos dernières retraites des faits passés. Des faits qui sont déjà accomplis, mais il y a un fait qui va être accompli et nous pouvons le croire. Mais au lieu d'être dans la crainte au sujet de cet ébranlement de ces événements, nous voulons être dans la paix parce qu'il y a des promesses. Il y a des choses qui vont disparaître. Et puis verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, vous voyez, c'est toujours des cieux que la parole vient, voici, je fais toutes choses nouvelles. Nous allons au-devant de choses absolument nouvelles, non pas d'un nouvel âge, comme certains le disent, mais nous allons au-devant de choses absolument nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ça fait partie de faits divins. Et celui qui était assis sur le trône dit,
Oui, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Vous voyez, vous devez le croire. C'est comme si c'était déjà fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et j'arrive à mon verset. Celui qui vaincra. Puisque notre thème, c'est plus que vainqueur, par celui qui nous a aimés. Donc vous voyez, quand le Seigneur nous donne une parole, ça correspond. C'est ça que je trouve toujours extraordinaire. C'est pas une question d'être en forme. C'est une question de s'attendre à lui. Et tout à coup, on remarque, il ne s'est pas trompé. Moi, si j'avais cherché, je me serais trompé. Mais en écoutant, en m'abandonnant, en lui disant, je n'en peux plus, Seigneur, mais donne-moi ta force. Alors, il parle. Celui qui vaincra, et je veux croire, vous serez parmi eux, hein, héritera de ces choses. Nous parlerons beaucoup de ces choses dans ces journées. Je serai son Dieu. Mais ça vous dit quelque chose? Je serai son Dieu. C'est du haut des plus, je dis, mais je serai son Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Mon fils, alors les sœurs disent, puis, mais mon fils, c'est aussi ma fille. Comprenez-le bien. Il n'est plus question de sexe. Il est question d'être qui sont au Seigneur. Je serai son Dieu. Mais alors attention, hein. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, tout ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui, tout ce qui forme notre environnement, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffle, qui est la seconde mort, car Dieu est un feu consumant. Eh bien, que nous puissions rester pour aujourd'hui avec cette parole, celui qui vaincra, il héritera de ces choses, et Dieu sera son Dieu, et nous serons ses enfants. Que notre Père, nous te bénissons pour cette parole que nous entendons de ta bouche, du haut des cieux. Nous la recevons dans notre cœur et nous voulons te demander que nous puissions réaliser et expérimenter que nous sommes tes enfants. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Louons-la à toi. Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, nous allons maintenant à la cafétéria.